Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Trois morts, dernier bilan de l'attaque terroriste à Londres, dans le quartier de Westminster, près du Parlement. L'assaillant a été tué. Aucune revendication pour le moment, mais cet attentat a les caractéristiques d'un acte islamiste. Dans ce journal, les dernières informations avec notre correspondant à Londres, Antoine Gignot. Le rappel des derniers attentats terroristes commis au Royaume-Uni avec Éric Biegala. Et le commentaire de notre invité, Claude Moniquet, spécialiste du renseignement. Le nouveau secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, promet la défaite de l'État islamique et la mort de son chef Abu Bakr al-Baghdadi. Frédéric Carbone nous appellera de Washington. Un an, jour pour jour, après les attentats de Bruxelles, Londres a donc été victime aujourd'hui d'une attaque terroriste, selon le terme employé par les autorités britanniques. Une attaque à la voiture Bélier sur le pont de Westminster, puis l'agression d'un policier dans l'enceinte du Parlement. Le dernier bilan fait état de trois morts, dont le policier. On dénombre aussi une vingtaine de blessés, dont trois élèves français du lycée Saint-Joseph de Concarneau. Deux d'entre eux sont dans un état grave, mais leurs jours ne sont pas en danger. Quant à l'assaillant, il a été abattu par les forces de l'ordre. Nous sommes en ligne avec notre correspondant à Londres, Antoine Gignot. Bonsoir.
Bonsoir.
Antoine, la première ministre britannique Theresa May vient de s'exprimer sur cet attentat.
Et elle salue la bravoure exceptionnelle des forces de sécurité, Theresa May, qui a rendu hommage aux policiers tués et aux trois autres qui ont été blessés dans les attaques de cet après-midi. C'est le cœur de notre système qui a été touché, a-t-elle dit. La liberté, la démocratie, les droits de l'homme, voilà tout ce qu'on a voulu prendre pour cible. Mais nous continuerons, nous serons là demain et le Parlement sera ouvert. Il fonctionnera comme d'habitude. Un discours d'une quelques minutes de Theresa May pour revenir sur cet incident, cette double attaque qui a eu lieu cet après-midi, avec effectivement d'abord une voiture qui a foncé sur le pont de Westminster en face du Parlement, qui est montée sur les trottoirs et qui a fauché au passage plusieurs dizaines de personnes. Il y aurait une vingtaine de blessés au total. Avant de terminer sa course dans les barrières de sécurité, c'est à ce moment-là que l'assaillant s'est dirigé en direction d'un policier. Il l'a menacé, il l'a poignardé avec un couteau de cuisine d'une vingtaine de centimètres. Il a ensuite été abattu, neutralisé par les services de police. Évidemment, tout le périmètre reste bouclé ce soir, depuis les rives de la Tamise jusqu'à Victoria, donc bien plus haut que le Parlement. Un gigantesque périmètre totalement interdit à la circulation ce soir. Les commerçants, eux aussi, ont baissé leurs rideaux et plus aucune voiture ne circule.
Alors Antoine, aucune information pour l'instant sur l'identité de l'assaillant, mais quelles sont les premières réactions à Londres après cet attentat ?
Réaction d'abord du côté du conseil du culte musulman qui pense d'abord aux victimes et qui évoque une tristesse et une colère face à ce qui s'est passé cet après-midi. Et puis réaction également du côté de Sadiq Khan, le maire de Londres, qui a rappelé qu'il pensait lui aussi aux victimes cet après-midi. Sadiq Khan qui en septembre s'était exprimé sur le sujet, il avait prévenu en expliquant aux habitants de Londres, nous ne pouvons pas vivre dans une grande ville sans qu'il n'y ait de risque terroriste. Il avait dans la foulée nommé Lord Harris, spécialiste du terrorisme. Il l'avait chargé d'élaborer un plan en cas de grande attaque simultanée qui se produirait dans la capitale. Ce plan doit être rendu avant l'été. En tout cas, les mesures de sécurité ces derniers mois ont été renforcées avec des déploiements supplémentaires de policiers dans les rues. Il y en a 600 de plus qui portent les effectifs à 2800 personnes en permanence. Et puis le risque d'attentat, lui, sur l'échelle de sécurité, reste au niveau 4 sur 5, un risque grave, explique ce soir les services de police.
Antoine Gignot, correspondant à Londres, merci. Alors ce n'est pas la première fois que Londres est la cible d'attentats, même si la capitale britannique semblait relativement épargnée ces dernières années, contrairement à Paris ou Bruxelles. Éric Biegala, l'attaque la plus meurtrière commise à Londres a eu lieu le 7 juillet 2005. Plusieurs bombes qui explosent dans le métro londonien.
Oui, quasiment à la même minute. Trois bombes portées par trois extrémistes islamistes dans leurs sacs à dos respectifs et qui explosent dans trois stations différentes du tube londonien. C'était à 8h50 précisément le 7 juillet 2005. Une heure plus tard, une quatrième bombe, elle aussi transportée par un kamikaze, faisait explosion dans un bus à impérial près de Tavistock Square, également dans le centre de Londres. Le bilan de ce quadruple attentat du 7 juillet 2005 avait été particulièrement lourd. 52 victimes, sans compter les quatre kamikazes. Le bilan le plus important pour une attaque terroriste au Royaume-Uni depuis l'attentat attentat qui avait détruit en vol un avion de la Paname au-dessus de Lockerbie. C'était en 1988. Depuis 2005, la Grande-Bretagne n'a plus été frappée par des attentats de cette ampleur, même s'il y a eu des tentatives et même beaucoup de tentatives. Le 29 juin 2007, par exemple, deux voitures bourrées d'explosifs et munies d'un système de mise à feu à distance sont découvertes dans le centre de Londres avant qu'elles n'explosent. Le lendemain, deux hommes au volant d'une troisième voiture bourrée de jerrycans d'essence forcent l'entrée de l'aéroport de Glasgow, en Écosse, mais l'incendie qu'ils déclenchent dans leur véhicule ne le fera pas exploser, blessant seulement fatalement l'un des deux terroristes. Et puis, il faut aussi compter avec les multiples conspirations déjouées, des attaques que les protagonistes n'ont pas eu le temps de mettre en œuvre. La dernière en date connue, Scotland Yard ou le MI5, les services de renseignement britanniques ne disent pas toujours tout. La dernière en date remonte à l'été 2015. Deux hommes avaient été arrêtés en possession d'une bombe artisanale d'une dizaine de kilos qu'ils comptaient faire exploser dans le métro ou dans un centre commercial londonien. Dans une interview donnée au Guardian à l'automne dernier, le patron du MI5, les services de renseignement donc, Andrew Parker, indiquait que les services de sécurité britanniques avaient réussi à stopper 12 attaques terroristes depuis 2013. Ça fait une tous les 3 mois en moyenne.
Eric Biegala, merci. Il faut ajouter à cette liste macabre l'assassinat d'un soldat britannique en mai 2013 à Londres. Lee Rigby, tué à coups de couteau en pleine rue par deux islamistes d'origine nigériane qui voulaient, je cite, « venger les musulmans tués par l'armée britannique ». Nous sommes en ligne avec Claude Moniquet, spécialiste du renseignement basé en Belgique, ancien agent de la DGSE. Bonsoir.
Bonsoir.
Claude Moniquet, comment expliquer que Londres soit à nouveau la cible d'une attaque terroriste après avoir été, je le disais, relativement épargnée ces dernières années ?
Ben alors, comme vous l'avez rappelé, Londres a été épargnée, mais ça n'est pas faute d'avoir essayé. Hein. Il y a eu des tentatives multiples. Et on a par exemple le témoignage d'un terroriste allemand qui a été arrêté à son retour en Allemagne pour préparer des attentats, qui s'appelle Harry Sarfo et qui parle pas mal depuis son arrestation, il y a plus d'un an maintenant. Et quand il est interrogé par les policiers allemands, il dit « Quand j'étais là-bas, en Syrie, on m'a décidé de me renvoyer en Allemagne et on m'a dit les deux pays où nous avons des problèmes pour recruter des gens aujourd'hui en Europe, c'est l'Allemagne et la Grande-Bretagne. On ne trouve pas de gens qui sont capables de faire ce qu'ils nous promettent de faire. On ne trouve personne pour commettre les attentats que nous voudrions faire. Donc manifestement, il y avait un problème de ressources humaines, si je peux dire, mais qui semble avoir été réglé d'une certaine manière et tragiquement aujourd'hui en tout cas.
Pour vous, la piste islamiste ne fait aucun doute parce que pour le moment, on n'a aucune revendication et on n'a pas d'informations sur l'identité de l'assaillant.
On n'a aucune revendication, on n'a pas effectivement d'informations sur l'identité, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas connue de la police, hein, puisque il est clair que si l'homme est un résident britannique ou un citoyen britannique, il doit déjà être identifié à l'heure actuelle. S'il ne l'est pas, il y a quand même de grandes chances qu'il le soit. L'incident maintenant s'est passé il y a plusieurs heures, mais comme l'identification va être obligatoirement suivie par des perquisitions et sans doute des interpellations, des interrogatoires, des gardes à vue, etc., on peut estimer que c'est pour ça que l'identité, si elle est connue, n'est pas révélée. Est-ce que c'est un attentat islamiste ? Je pense que le modus operandi, le choix de la cible semble l'indiquer. Est-ce que c'est un attentat qui a été planifié et dirigé depuis la Syrie ? C'est beaucoup moins sûr. Ça peut être quelqu'un qui a agi sous l'influence de l'État islamique ou de notre organisation, mais plus probablement de l'État islamique, sous cette influence et de son propre gré. Peut-être sur un choix de cible qui lui avait été désigné. Mais ça, bien entendu, c'est l'enquête qui le dira. Ce que je peux vous dire, c'est que mon équipe, cet après-midi, a beaucoup travaillé sur les médias sociaux, y compris des médias comme Telegram et autres, très utilisés par les gens de l'État islamique. Et les discussions que nous avons pu y observer étaient du même type que celles qui ont suivi les attentats en France, de Nice, de Magnanville ou de Rouen, avec le même vocabulaire, les mêmes intervenants, la même joie qui se manifeste et qui semble indiquer quand même qu'on est vraiment sur cette piste islamiste.
Alors justement, Claude Moniquet, en même temps, cette attaque n'a rien à voir avec les attentats de Paris de 2015, attentats commis par de véritables commandos. L'État islamique ou Al-Qaïda n'ont plus les moyens de mener ce type d'attaque. Ils sont obligés de s'en remettre à des individus isolés.
Alors il faut le dire vite, hein, parce qu'on risque évidemment d'être démenti tragiquement. Al-Qaïda en particulier, méfions-nous d'Al-Qaïda, dont on parle moins, mais qui est en train de reconstituer ses forces, à la fois au Yémen et en Syrie, et qui pourrait avoir des capacités opérationnelles. Ce qui nuit à Al-Qaïda, c'est qu'il cherche toujours à faire grand, et faire grand, c'est difficile. Donc on sait souvent prendre, ils se font souvent prendre avant d'être arrivés à passer à l'acte. L'État islamique aujourd'hui a probablement un affaiblissement de ses structures de commandement et de communication. Donc ils n'ont sans doute plus la capacité pour le moment, d'envoyer des gens vers l'Europe comme ils l'ont fait avant le 13 novembre. Mais on sait que Abaoud était entré avec, il l'avait dit lui-même, en même temps probablement que plusieurs dizaines de combattants d'État islamique, de djihadistes, en Europe à l'automne, été-automne 2015. À peu près 25 d'entre eux ont été arrêtés ou sont morts en opération depuis cette période. Donc il en reste des dizaines qui sont en liberté. Est-ce qu'ils ont toujours la volonté d'agir? Est-ce qu'ils attendent des ordres? On ne le sait pas. Mais surtout, on a effectivement une relève qui est constituée par ces gens qui ne sont jamais allés en Syrie, auxquels d'ailleurs l'État islamique a conseillé de ne pas venir dès le printemps 2016. Ils disent, ne venez pas, on n'a pas besoin de vous, c'est difficile, agissez chez vous, restez chez vous et agissez chez vous. Et là, on a effectivement ces attentats individuels qui peuvent être aussi meurtriers que des attentats très sophistiqués, très planifiés comme ceux de Paris, hein, du 13 novembre. Rappelez-vous Nice, un homme, un camion, 86 morts.
Dernière question, Claude Moniquet. Comment on peut protéger la population face à ces terroristes isolés? C'est pratiquement impossible d'empêcher une attaque à la voiture bélier.
C'est pratiquement impossible. Pour désigner ce genre d'attaque, les Britanniques, les policiers, les services britanniques parlent d'attaque de maraude. C'est vraiment l'idée de quelqu'un qui rôde et puis qui à un moment donné, quand il voit l'opportunité, va frapper. Fatalement, le quartier dont on parle, hein, Westminster, c'est un des quartiers les plus sécurisés de Londres, donc du monde, avec des policiers, avec des véhicules, avec des herses qui peuvent bloquer la circulation. Mais c'est aussi le cœur de la démocratie, donc c'est un quartier accessible, ouvert, avec beaucoup de commerce, beaucoup de tourisme, et le pont de Westminster est un des principaux points de trafic, points de passage du trafic de véhicules à Londres. Donc on ne peut pas fermer ce quartier. Ce qui veut dire clairement que dans une société ouverte et démocratique, on peut, par le renseignement, limiter le nombre d'actions. On a aussi la chance qui joue, mais malheureusement, l'assurance 100% contre le terrorisme, elle n'existe pas.
Merci Claude Moniquet d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Nous reviendrons largement sur l'attentat de Londres dans nos journaux demain matin sur France Culture. Cet attentat qui intervient au moment où Washington accueille une réunion de la coalition internationale contre l'État islamique, 68 pays au total, emmenés par les États-Unis qui espèrent chasser Daesh de ses derniers fiefs en Syrie et en Irak. Une réunion présidée par Rex Tillerson, le nouveau patron de la diplomatie américaine. Frédéric Carbone, le secrétaire d'État américain, est allé jusqu'à promettre la mort prochaine du chef de l'État islamique al-Baghdadi.
Ce qui frappe dans les propos de Rex Tillerson, c'est qu'ils auraient pu être tenus par son prédécesseur John Kerry. Fini par conséquent les accusations de faiblesse martelées par Donald Trump pendant la campagne, son secrétaire d'État insiste au contraire aujourd'hui sur les succès de la coalition depuis un an, les centaines de milliers de civils qui ont pu revenir à Mossoul, les djihadistes qui ont de plus en plus de mal à rentrer et sortir de Syrie et les pertes subies par Daesh. Presque tous les adjoints d'Abou Bakr al-Baghdadi sont morts, y compris le cerveau des attentats de Bruxelles, Paris et ailleurs. Ce n'est qu'une question de temps avant que Baghdadi lui-même rencontre le même destin. Objectif effectivement, al-Baghdadi est le réduit de Daesh autour de la ville de Raqqa en Syrie. Pour cela, les États-Unis n'évoquent pas une nouvelle stratégie. Là encore, continuité avec l'administration Obama. Aucune précision, par exemple, lors de cette réunion sur le fameux plan secret évoqué à de multiples reprises par Donald Trump. Là, il s'agissait surtout pour Rex Tillerson de rassurer les partenaires de Washington. Remerciements appuyés à la Turquie et à l'Arabie Saoudite. Et même les Nations Unies sont félicitées pour leur rôle humanitaire. Décidément consensuel et optimiste, Rex Tillerson promet que la phase strictement militaire va bientôt laisser place à une deuxième étape, celle de la stabilisation.
Frédéric Carbone, notre correspondant à Washington. En France, l'actualité reste dominée par la campagne présidentielle avec un petit événement ce soir. Les déclarations de patrimoine des 11 candidats sont accessibles en ligne. Vous pouvez les consulter sur le site de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, un organisme mis en place après l'affaire Cahuzac. Stéphane Robert, vous avez jeté un coup d'œil à ces déclarations de patrimoine qui ne comportent pas de révélations fracassantes. Stéphane Robert, dans un instant, pour les déclarations de patrimoine des 11 candidats. Alors, je vais voir si l'on peut retrouver Stéphane Robert pour nous parler de ces déclarations de patrimoine. Je crois que ça ne va pas être possible. Écoutez, je vous propose peut-être de finir ce journal avec les dernières informations sur la campagne présidentielle et notamment ce ralliement important pour Emmanuel Macron. Dominique Perben, ancien ministre de la Justice sous Jacques Chirac, a choisi de soutenir le candidat En Marche. marche. Il l'annonce dans une tribune au Figaro. Dominique Perben approuve notamment les orientations d'Emmanuel Macron en matière de justice. Dominique Perben avait pourtant soutenu activement Alain Juppé lors des primaires de la droite et du centre. Le temps demain agité et pluvieux sur le sud-est, variable avec des averses sur l'ouest du pays. Il neigera sur le massif central et les Alpes. Ailleurs, le ciel se partagera entre nuages et éclaircies. Les températures maximales, 8 à 13 degrés sur la moitié ouest, 9 à 18 degrés sur la moitié est. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.